Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus compétente que votre collègue?
Le chrysostome, c'est le nom d'une molécule de la chair en décomposition.
À sa meuf que je suis pas une salope qui veut baiser.
Je l'ai appelé. Il s'est retourné. Et là, je lui ai tranché la gorge.
Tu vas convaincre des actionnaires que la cause féministe leur fera gagner.
J'en ai couru, mais. On va voir de là?
Ouais,
allez, on y va là!
On y va!
On accueille aujourd'hui Louane Arex dans le studio. C'est une jeune cinéaste lozérienne. Aujourd'hui, elle a ses activités du côté de Montpellier, mais vous l'entendrez très bientôt, elle ne perd pas son pied lozérien et garde un fort attachement territorial dans son cinéma. Bonjour Louana, je vais dans un premier temps te demander de te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Dis-nous tout.
Bonjour, je suis réalisatrice de cinéma. J'ai grandi en Lozère sur le Cosméjean jusqu'à mes 18 ans. Donc, j'ai fait mon collège à Merveille et mon lycée à Saint-Chély-d'Apché dans le nord Lozère, où j'ai fait une option cinéma. Et après, pour mes études, je suis partie à Montpellier pour faire un double cursus lettres modernes cinéma à la fac.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais?
Et donc aujourd'hui, je suis réalisatrice de cinéma, de films de fiction. Voilà, c'est mon métier, je suis intermittente du spectacle, donc j'arrive à en vivre. Pendant mes études, en fait, avec une amie qui avait une association de cinéma, Les Arts Fantastiques, on a commencé à faire mes premiers films. Donc j'ai commencé quand j'avais 19 ans, et après avoir... fait mes premiers films avec Les Arts Fantastiques. J'ai continué de faire des films, mais avec une société de production qu'on a montée donc avec Alexia, Idyllic Studio. Et avec Idyllic, j'ai continué à faire des courts-métrages. Et là, j'arrête de travailler avec Idyllic, mais voilà, je vais continuer à faire des films, certainement avec d'autres sociétés de production. Et voilà.
Qu'est-ce que ça fait du coup de grandir en Lozère? Encore plus sur le Cosméjean, entouré de nature, de pas grand-chose. Est-ce que ça t'impose un milieu social, des biais culturels?
Oui, je pense que c'est quand même une enfance particulière parce que c'est vraiment la ruralité profonde, donc des zones très rurales où il y a moins de propositions culturelles et artistiques qu'en ville. Et en même temps, pour moi en tout cas, ça a été une enfance protégée, très heureuse, très entourée, très aimante, enfin vraiment avec un super parcours scolaire. Donc j'ai eu beaucoup de chance de grandir à la campagne. Après, bien sûr, mon arrivée à la ville à 18 ans, ça a été un peu un choc culturel d'avoir le cinéma à côté, le théâtre, les concerts, les boîtes de nuit. C'était un peu la folie. Après, moi, je viens d'une famille, mes deux parents sont dans l'éducation nationale, donc ma mère est instite, avec quand même une éducation culturelle assez forte à la maison, avec des pratiques artistiques encouragées. Donc, c'est sûr que le fait que je vive d'un métier artistique aujourd'hui, ça sort pas de nulle part non plus.
Est-ce que tu es devenue donc un peu accro à la ville et tu ne pourrais plus revenir vivre en Lozère sur le Cosméjean?
C'est le contraire. j'aspire vraiment à revenir m'installer à la campagne à un moment donné. Il y a plusieurs coins qui me tentent, mais globalement, c'est Lozère Aveyron. Là, en ce moment, je suis très fan de l'Aubrac parce que j'ai fait un projet de film de juin à décembre 2022 sur l'Aubrac. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et je suis un peu tombée amoureuse du plateau. C'est un plateau en altitude encore plus grand que le Causse. Et j'ai l'impression beaucoup plus sauvage et ça m'a vraiment séduite. Donc moi la ville, ça va être c'est temporaire, c'est vraiment le temps de faire mon réseau, j'ai vraiment un cercle social et professionnel à Montpellier qui est très large et qui ne cesse de s'agrandir d'année en année. Donc pour l'instant, je trouve que c'est nécessaire pour mon travail de rester dans une métropole. Mais je me dis que dans quelques années, j'en aurai peut-être plus besoin autant pour avoir du travail. Et donc, je pourrai déménager en pleine nature.
À quel moment s'est créé chez toi ce désir de cinéma? Est-ce que c'était toute petite ou ado?
Non, moi, j'ai toujours été plutôt une grande lectrice. Depuis toute petite, je lis énormément. Et du coup, à l'origine, je voulais être prof de français. Mais quand je suis arrivée en troisième, il y a eu un cours d'orientation, ces fameux cours d'orientation imposés que tout le monde déteste. Et moi, en fait, j'ai trouvé le métier de régisseuse générale pour le cinéma. Et ma réflexion, ça a vraiment été waouh, j'adore organiser des choses, être hyper carré dans ma logistique de vie et tout. C'est trop fait pour moi. Et donc, j'ai décidé d'aller faire un lycée option cinéma en Lozère, donc à Saint-Chély. Et quand j'y suis arrivée, on a commencé à faire des films en seconde avec l'option et tout ça. Et là, je me suis dit, ah, mais non, mais moi, ce que je veux, c'est être actrice. Parce que je me suis retrouvée à jouer et tout, et ça m'avait beaucoup plu. Et finalement, je me suis rendu compte quand même que j'étais pas super douée, que finalement, travailler ça, ça me tendait pas tant que ça. Donc en terminale, j'étais plutôt dans l'idée de faire directrice de la photo, donc plutôt vers l'image. Et donc j'ai voulu faire un BTS audiovisuel, je les ai tentés, je les ai pas eus. Et donc je me suis retrouvée voilà, en terminale avec un super bon dossier à être prise nulle part. Et donc un peu en catastrophe, je me suis inscrite en lettres modernes à Paul Valéry à Montpellier parce que c'est là où il restait de la place, en ciné il n'y avait plus de place. Donc j'ai fait une année de lettres et ça m'a... Voilà, ça m'a vraiment énormément plu. J'ai adoré les cours. Je me suis replongée à fond dans la littérature, donc j'avais jamais lâché, mais parce que j'avais fait un bac L. Mais voilà, ça m'a. Voilà, je voulais garder la littérature et en même temps, je savais que je voulais faire du cinéma. Donc j'ai décidé de faire un double cursus. Et à la fin de ma première année de lettres, il s'est passé deux choses. J'ai vu Mustang, le film de Denis Gamzergouven, au cinéma, seul. Et ça m'a vraiment bouleversée comme film et je me suis dit, moi aussi je veux raconter des histoires au cinéma. C'est apparu vraiment comme une évidence à la sortie de la salle, quoi. Et donc j'ai fait un premier court-métrage toute seule, genre vraiment entièrement toute seule. D'ailleurs c'est le court-métrage zéro, c'est celui qui ne compte pas, qui est vraiment le crash test. Et de ça est sorti voilà, un objet d'expérience, quoi. Et vraiment, à partir de là, je me suis dit, OK, c'est vraiment ce que je veux faire. Et sauf que pour l'instant, à ce moment-là, et même après 3-4 films, j'envisageais toujours pas ça comme un métier, comme une profession, mais plutôt comme un à côté. Genre, je me voyais prof de français et d'options cinéma et faire mes films à côté. Donc, ça suivait un peu le modèle que j'avais eu au lycée de mon prof de ciné. Et en fait, j'ai lu un bouquin de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et là, ça a été la deuxième révélation, je pense, qui a fait que je suis réalisatrice aujourd'hui. C'est que je me suis rendu compte, et c'est lié à l'intime en fait, que je voulais pas d'enfant. Et que pour l'instant, j'avais toujours envisagé la carrière de prof de français parce que je me disais qu'il me fallait une situation stable pour pouvoir avoir une famille nucléaire, une maison, pouvoir accueillir des enfants. Et là, quand j'ai réalisé que j'étais pas obligée en fait d'en avoir, que j'étais pas obligée de suivre ce chemin... Je me suis dit, mais en fait, mais je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux galérer pendant 10 ans économiquement si j'en ai envie. Et en fait, ça fera de mal à personne à part à moi. Et voilà, ça a été une vraie libération. Et donc là, j'ai vraiment j'ai décidé de consacrer toute mon énergie à devenir réalisatrice. Et du coup, dès la fin de mon master, à force de faire des films, d'aller en festival, de candidater à différents appels à projets, de faire des ateliers d'éducation à l'image, au début gratuitement, j'ai fini par me construire un réseau assez solide qui m'a permis, dès la sortie de mes études, de commencer à faire des cachets d'intermittence grâce à ma boîte. Et donc j'ai pu, au bout d'un an après les études, je vivais du cinéma quoi, en tant que réal, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Quoi. Voilà, donc c'est un peu ça le chemin jusqu'à maintenant.
Tu disais que tu avais raté ton entrée dans les BTS audiovisuels, c'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai raté 3 fois de suite et je connais 3 personnes qui sont rentrées du premier coup, c'est un peu une horreur ces BTS.
Oui, vraiment. Moi, j'ai toujours pas compris comment ils sélectionnaient les profils. J'avais aussi une copine qui avait été sélectionnée, mais bon, voilà, on n'avait pas du tout les mêmes profils pour le coup. Mais voilà, j'ai jamais compris et j'ai des copains qui ont fait aussi. Notamment, moi, je visais celui des arènes à Toulouse. et j'ai des potes qui ont fait le BTS Image là-bas. Donc voilà, je sais pas trop quels sont leurs critères. Bon, après, je pense qu'il faut tenter dans tous les cas. On ne sait jamais si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais moi, je pense au final, tu vois, que je sais pas ce qui se serait passé pour moi si j'avais été prise, mais au final, le parcours que j'ai, j'en suis hyper fière et je suis très contente d'où j'en suis arrivée aujourd'hui et de tout ce que j'ai construit. Donc bon, on a l'impression des fois que c'est des occasions manquées de la vie, mais finalement, ça m'a apporté, ça m'a mise sur un chemin que je trouve super, quoi.
Tu as dit du coup que tu étais à Paul Valéry. Pourquoi le choix de Montpellier? Pourquoi pas un autre endroit?
Parce que je pense que ça restait proche de la Lozère, que c'était la grosse ville la plus proche d'ici. Bon, après, il y avait Clermont-Ferrand, mais je crois que j'étais plus attirée par le sud. Puis j'avais mes amis d'enfance qui allaient y faire leurs études aussi. Et je me sentais vraiment plus attirée par Montpellier. Et au final, vraiment, j'adore cette ville. Enfin, j'adore le soleil, j'adore l'ambiance chill qu'il y a. J'adore le tissu culturel et associatif qui est hyper dynamique. Donc non, c'est vraiment une très belle ville où étudier, où vivre. Et voilà, je ne regrette pas du tout mon choix non plus.
Si je résume du coup, ces dernières années, tu as fait un double cursus en master cinéma et littérature, tu as géré une asso et une boîte de prod, tu fais des courts-métrages, le tout en même temps, est-ce que tu dors beaucoup?
J'essaie 8 heures par nuit justement pour tenir mes journées. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, en plus je travaillais à côté parce que j'avais besoin d'argent pour vivre aussi, donc j'ai toujours fait des boulots alimentaires l'été ou pendant mes études, j'ai travaillé en bibliothèque universitaire, tout ça. Et après là aussi je fais partie d'une association à Montpellier, l'Ultraviolette, un bar queer et féministe, et pour laquelle je fais notamment de la programmation, et là c'est ce que j'ai vraiment commencé à faire ces dernières années avec l'Ultraviolette et les Arts Fantastiques, je fais de la programmation culturelle, j'organise des événements. Ce qui me plaît beaucoup aussi et où je peux y mettre, parce que dans mon cinéma, je mets beaucoup de mon engagement féministe et écolo et de manière générale pour déconstruire les oppressions systémiques et tout ça. Et c'est l'événementiel et le militantisme dans l'associatif, ça me permet aussi de vivre mes valeurs, mon engagement et de toujours trouver du sens en fait dans mes activités.
T'as un peu répondu avec tes boulots d'été et alimentaires, mais du coup, je me demandais comment, avec tes études à côté, tu as réussi à financer tous tes projets.
Ouais, je bossais, donc j'avais toujours un tout petit peu d'argent à mettre dans mes projets. Et quand même, pour les premiers, donc j'ai eu de la chance d'être accompagnée par Alexia, qui elle avait envie de faire productrice, et du coup qui a dit tout de suite, on va aller chercher l'argent, on va aller chercher des subventions jeunes pour faire tes films. Et du coup, on a, pour les premiers, on est allé chercher le CROUS, la Biche, donc Bourse Initiative Jeunes de Montpellier, Cap Jeunes Héros. Pour mon premier cours, on a fait un crowdfunding. Après, c'est quelque chose, moi, c'est un système que j'ai refusé de faire pour les suivants parce que je trouve que c'est pas à tes proches de financer forcément tes projets artistiques, pas toute ta vie. En tout cas, le premier, la rampe de lancement, ça peut être bien, mais pour la suite, j'avais quand même dans l'idée de film en film, parce que j'en ai fait une quinzaine maintenant, de plus en plus les professionnaliser, que ce soit de la façon dont on allait chercher l'argent, la façon dont je l'ai distribué ensuite, la façon dont je monte des partenariats, comment je travaille avec mon équipe. Le but, c'était quand même de partir d'un film d'étudiant amateur et d'arriver de plus en plus vers un film professionnel où l'objectif ultime, c'est de rémunérer les gens et d'arriver en festival de catégorie A, quoi. Donc, j'avais quand même assez dans l'idée, au fur et à mesure des années, quelles étaient les perspectives d'évolution de l'amateurisme jusqu'au statut professionnel.
En tout cas, ça se voit. J'ai passé un après-midi entier, du coup, à regarder tes courts-métrages dans l'ordre du plus ancien au plus récent.
Bien joué.
Et je me suis revu un peu plus jeune, à l'époque où je regardais la série qui s'appelle Le Visiteur du Futur, qui était une web-série qui a commencé avec c'était misérable, il tournait avec rien, c'était la qualité était déplorable. Et d'épisode en épisode, ça...
De mieux en mieux, ouais.
C'était de mieux en mieux, quoi. Ouais. Je me suis revu un peu dans la même ambiance. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément du coup ce que c'est les Arts Fantastiques et Idyllic Studio, parce que je me suis un peu perdu dans tout ça.
Oui, les Arts Fantastiques, c'est une association qui a été créée en 2016 par Alexia Goutani en Lozère, suite à notre sortie du lycée de Saint-Chély-d'Apcher, et qui avait pour objet à la base de plutôt produire des films, des premiers films, etc., et d'aider les jeunes réals à se lancer. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'en ai repris la présidence depuis quelques temps, et c'est devenu une structure qui accompagne les jeunes artistes de Montpellier, toutes disciplines confondues, et avec laquelle on a notamment monté un festival à Montpellier qui s'appelle Zone Imaginaire, et qui est le festival de la jeune création montpelliéraine. Et donc là, ça a eu lieu sur 4 jours la semaine dernière, avec des ateliers la journée, des événements le soir, c'est entièrement gratuit. Et donc c'était la deuxième édition. Et donc là, les Arts Fantastiques, ça va continuer avec cette idée de continuer à faire ce festival, qui est vraiment une fenêtre de diffusion des jeunes artistes, et également de faire des ateliers de cinéma, parce que moi, une grosse partie de mon travail, c'est les ateliers d'éducation à l'image et de pratique du cinéma, donc écriture, réalisation, sensibilisation au métier du cinéma, au processus de création d'un film. Je fais plein de formats différents, ça peut être sur 5 jours comme sur 2 heures, plein de possibilités. Et Idyllic Studio, c'est vraiment une société de production, donc une entreprise qu'on a montée à 4 il y a 3 ans. Et on n'avait aucune expérience et on s'est lancé là-dedans. On a réussi à faire quelques projets, mais là, du fait de la reconversion professionnelle de la présidente, la boîte va s'arrêter. Donc c'est la fin d'Idyllic cette année.
Tu as évoqué le festival Zone Imaginaire, ça se passait du coup la semaine dernière. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup qu'est-ce qu'il y avait dans ce festival? C'est la deuxième édition, ça se passe à Montpellier.
Oui, dans Zone Imaginaire, donc il y a des ateliers la journée. Par exemple, on avait un atelier fanzine, création de fanzine, un atelier d'initiation au DJing, donc pour voir un peu les coulisses des DJ, comment ils font, comment ils travaillent. Le vendredi, c'était un atelier de création d'une planche de BD, et le samedi, un atelier d'expression corporelle. Et donc le soir, après, on avait concert, spectacle de théâtre, table ronde sur le rap, projection de clips. Donc en fait, on essaye de brasser le plus de disciplines artistiques possible et de faire venir que des jeunes artistes de Montpellier. Il y avait aussi une exposition photo, et de travailler. En fait, le principe, c'est qu'on est dans 4 quartiers de la ville différents. Chaque jour égale un quartier. Et du coup, on essaye de travailler avec les structures qui sont implantées dans le quartier, que ce soit des bars ou des maisons pour tous ou des cinémas de ville, pour essayer d'aller à la rencontre de différents publics. Donc nous, on a notre public qui est plutôt jeune, donc on va dire 18-30 ans. Et via ces structures, on essaye d'aller toucher aussi un autre public et du coup de mélanger les publics. Voilà.
C'est qui a eu l'idée?
du concept du festival?
Oui, c'est énorme.
C'est moi qui ai eu l'idée de ces 4 jours, 4 quartiers de la ville. Le nom du festival Zone Imaginaire, c'est Myriam qui l'a trouvé, c'est l'ancienne service civique du LAF. Ça a été un peu un brainstorm collectif des gens qui avaient dans l'asso l'année dernière, il y a 2 ans.
Aujourd'hui, tu vis de quoi du coup? Tu disais que tu étais intermittente? Est-ce que ça te permet de vivre?
Ouais, complètement. L'intermittence me permet de vivre. Bon, après, il y a toujours la pression tous les ans de refaire ces 507 heures. Mais globalement, là, je vais normalement valider ma 3e année d'intermittence. Donc, c'est bien. Et je compte bien que ça continue. Après, c'est vrai qu'une grosse partie de mes revenus, c'est pas les films. Pour l'instant, c'est les ateliers. Donc, c'est vraiment l'éducation artistique. Mais ce qui est très bien aussi, parce que moi, j'adore transmettre mon désir de cinéma, transmettre mes compétences, réveiller des vocations, et juste partager autour du cinéma avec plein de gens, et notamment beaucoup de jeunes, parce que j'interviens beaucoup en milieu scolaire. C'est vraiment ça me fait vibrer, quoi. Donc là, j'ai un film qui est en cours de financement, qui est produit par une boîte de Paris. Et donc là, ce serait le début d'être rémunérée vraiment pour mes films. Après, j'ai fait donc 2 résidences de territoire. C'est cette dernière année, donc de juin à décembre 2022, j'étais sur l'Aubrac, et de là, de janvier à juin 2023, je suis dans le Gers, vers Nogaro, enfin sur la communauté de communes du Bazarmagnac. Et donc, ces résidences du territoire m'ont aussi permis de me payer pour faire les deux films que j'ai fait dans ce cadre-là, quoi. Donc ça commence tout doucement, je commence tout doucement à être payée pour faire mes films. Mais pour l'instant, par exemple, j'ai jamais été payée pour écrire un scénario. J'ai jamais été, enfin j'ai un contrat d'option là pour mon court métrage produit. Mais bon, dans le cours, c'est compliqué d'être vraiment bien payée sur scénario. Donc là, j'ai fait une formation via la Cité des scénaristes à Paris, donc qui a commencé à ouvrir ses formations aux régions. Donc la région Occitanie était la première région à accueillir leur formation de scénaristes, plutôt scénaristes télé. Mais ça m'a ouvert des portes parce que ça m'a ouvert un réseau de scénaristes professionnels et ça m'a aussi ouvert l'esprit à des nouvelles possibilités. Et c'est vrai qu'en télé, il y a plus d'argent et il y a plus de demandes qu'en cinéma. Et du coup, c'est un peu plus simple, après tout est relatif, de se faire, voilà, de signer des contrats d'option pour de l'unitaire ou pour de la série. Voilà, donc je vais essayer d'explorer cette voie aussi dans les prochains mois.
Je reviens un tout petit peu en arrière. Du coup, tu as terminé tes études. Est-ce que ça te laisse plus de temps ou est-ce que tu combles ce temps libre par encore plus de projets?
Non, ça me laisse pas plus de temps. Non, en fait, faire ce métier, c'est déployer des forces surhumaines pour arriver à faire son réseau, à monter ses projets, à chercher de l'argent, à chercher des collaborateurs et collaboratrices. Non, c'est énorme le temps qu'il faut pour faire ce boulot-là et en vivre. Donc, j'ai pas de week-end, j'ai peu de vacances. C'est que très récemment et avec la pression de mes proches que je me suis dit qu'il fallait que je prenne un mois de vacances par an. Et du coup, le mois d'août, en général, j'essaye de me fermer à tous les projets et tout ça, même si c'est pas facile, et de vraiment prendre le temps de me reposer. Mais voilà, c'est un boulot qui demande 100% de toi, de ton temps, de ton énergie. Et du coup, non, le fait que j'ai fini mes études, ça m'a juste laissé plus de champ libre pour avancer dans ma carrière de réal.
La plupart de tes courts-métrages aujourd'hui sont autoproduits. Est-ce que tu comptes du coup continuer dans cette, autonomie?
Pas du tout. Non, pas du tout. Là, moi, j'ai envie de vraiment passer au stade de vraiment professionnaliser mes tournages. Après, par exemple, mes deux derniers films, donc Je marche sur l'aube, que j'ai fait sur l'Aubrac, et Léna à Nogaro, que j'ai fait dans le Gers, on peut pas dire que c'est complètement autoproduit, parce qu'il y a Idyllic Studio derrière, parce que il y a des bourses de résidence, donc il y a des sous de la région et des collectivités territoriales. Donc, c'est financé. Il y a une boîte de prod, mais c'est sûr qu'il n'y a pas le CNC, il n'y a pas une subvention région ciblée cinéma, il n'y a pas d'achat télé. Donc voilà, on n'est pas encore sur des films produits de façon complètement professionnelle, mais mes techniciens étaient payés sur le plateau et en post-prod. Et moi-même, j'étais payée pour ça. Donc on va dire, sur du semi-pro, allez. Et là, vraiment, le cours que j'ai en prod avec Macania Productions et Frédéric Plisson à Paris, c'est vraiment l'idée de le faire de façon complètement professionnelle. Donc là, on a demandé la région Occitanie, on l'a pas eu, on va la redemander à la fin de l'année. Là, on va aller demander la métropole de Montpellier. Puis on a déposé au CNC aussi, même si bon, c'est hyper compliqué à avoir. On va essayer d'avoir un achat télé. Enfin bref, j'ai vraiment une volonté de professionnalisation, surtout que j'ai mon long métrage en écriture, qu'il a déjà fait deux résidences, que là j'ai trouvé une consultante parce que j'ai eu la bourse d'écriture de la région Occitanie pour développer le long. Donc en fait, il faut que ça avance. Enfin, j'ai vraiment envie de passer aux prochaines étapes et plus du tout d'être dans l'autoprod. À part pour certains projets où j'aurais envie de les faire plus vite. Par exemple, j'ai fait un court métrage là en début d'année qui s'appelle Stringestras, que j'ai fait avec l'Ultra Violette, où là c'était pour répondre à un concours de la ville de Montpellier, puis un concours du Diagonal, qui est le cinéma emblématique de Montpellier, qui fête ses 40 ans là en juin. Donc là, oui, quand c'est des petits cours comme ça sur appel à projet, qu'il y a un élan, une énergie derrière, que je trouve un concept qui peut aller vite à tourner, tout, je le fais. Mais vraiment, j'ai envie d'être produite et d'être sélectionnée en festival et d'être vue. Voilà.
Ça peut se comprendre. Tu fais toi-même des petits festivals quand ça vient, du genre des 48 heures ou des choses comme ça, ou ça t'intéresse pas trop ?
Non, ça m'intéresse pas trop. J'ai fait une fois un 48 heures, mais en vrai, je suis pas super fan, je crois. J'aime bien quand même prendre le temps de penser mes projets. J'aime bien avoir le temps de penser les choses, de faire des partenariats avec différentes personnes. Après, c'est plus, tu vois, c'est un exercice de style, en fait, le 48 heures. C'est pas... parce que t'as pas le temps de penser ton intention derrière le film, t'as pas le temps de penser un message, t'as pas le temps de penser la mise en scène dans les détails. Et du coup, souvent, c'est des beaux objets, ceux qui vont à Paris, qui vont à la Filmapalooza et tout ça. Donc, c'est des beaux objets, mais c'est pas des films qui ont été pensés sur du long terme, quoi. Donc, c'est sûr que t'as pas les mêmes enjeux derrière.
Oui, c'est un film. Tu sais que quand tu regardes un film de 48 heures, c'est un 48 heures parce que bah, il est, tu le ressens. Tu sens que c'est fait pour ça. Et c'est parfois d'autant plus beau que le court-métrage est d'autant plus beau parce qu'il est fait en 48 heures, justement.
Oui, après, parce que souvent les équipes qui gagnent, elles ont c'est des super techniciens et techniciennes, il y a du matériel et tout ça. Donc c'est sûr, techniquement, c'est ouf, surtout en 48 heures. Mais voilà, après, il faut voir le scénario, enfin, est-ce que ça porte aussi comme sens, quoi. Donc c'est hyper intéressant, hein, comme ça permet d'avoir de la visibilité. Et bon, il y a l'unique exemple des Parasites qui ont réussi à faire leur chemin comme ça, mais je pense que c'est pas évident de passer par là, et moi c'est pas la voie que j'ai choisie en tout cas.
Ton équipe de tournage, depuis toutes ces années, comment tu la composes ? Est-ce qu'elle évolue beaucoup ? Est-ce que ça a beaucoup changé ?
Alors ça a quand même beaucoup changé depuis le premier film. Même s'il y a des techniciens que je connais toujours, avec qui je travaille plus forcément, mais qui font toujours partie de mon cercle. Et après, là, depuis 3-4 films, quand même, il y a des personnes récurrentes, notamment ma chef opératrice, Flore, qui est la même, là, depuis quelques films. Et mon premier assistant réal, Loïc, qui, pareil, me suit. Nathan, mon l'ingé son, pareil, qui travaille sur mes 3-4 derniers projets. Donc voilà, on est vraiment sur des gens là qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont là malgré le fait qu'ils soient pas bien payés, que, enfin, ils y croient en fait, et c'est ça qui est beau. En post-production, il y a Ludovic et Francesca au mixage son qui sont très très précieux, et vraiment je les remercie. Enfin, au montage, il y a Julien Caroubi. Enfin voilà, c'est des gens qui me suivent de projet en projet, qui connaissent mon cinéma, qui connaissent le temps, l'énergie que j'y mets, et qui, en fait, qui sont là parce qu'ils savent aussi que c'est un investissement sur l'avenir. Et je pense que cette confiance, elle me porte, en fait. D'une certaine façon, le fait qu'ils soient là de film en film, c'est vraiment hyper beau et hyper touchant pour moi. Et on grandit ensemble, et donc voilà. Après, il y a toujours des nouvelles personnes aussi que je prends sur mes plateaux. Alors souvent, j'aime bien prendre des gens qui débutent ou qui connaissent pas du tout le cinéma et qui ont envie de le découvrir, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir cette opportunité à ce moment-là, enfin à leur âge. Donc voilà, je prends souvent un stagiaire, une assistante plateau, enfin voilà, quelqu'un qui va juste venir découvrir, qui a pas forcément les compétences et qui va apprendre sur le tas. Et après, je prends des nouveaux techniciens ou techniciennes dans le processus de création. Voilà, je mélange un peu les deux, quoi.
Ces gens qui te sont si fidèles, est-ce qu'ils seraient prêts à te suivre jusque sur l'Aubrac ?
Bien sûr, ils m'ont suivi sur l'Aubrac d'ailleurs, hein, et ils étaient ravis.
Sur un plus long terme ?
Ah non, sur un plus long terme, non, je pense qu'ils ne viendraient pas habiter. Loïc, mon premier assistant réel, n'aime pas la campagne, donc... On est pour le film sur l'Aubrac, on a dû tourner dans une piscine naturelle pour faire les plans sous-marins. Il y a des plans sous l'eau, voilà. Et la piscine naturelle était forcément pleine d'algues et tout ça. Et ma chef-op, Flore, a pas hésité à sauter dans l'eau, moi aussi. Et Loïc a regardé, non, mais moi je viens pas là-dedans en fait. Donc voilà, on a chacun et chacune nos limites. Hein. Mais après, forcément, quand t'habites sur l'Aubrac ou en ruralité, tu fais pas tes films sur place, quoi. Enfin, après, tu bouges, tu te déplaces. De toute façon, tu fais rarement tes films là où t'habites. Enfin, les projets, ils demandent des décors en particulier et tout ça. Donc, de toute façon, quand tu fais du cinéma, tu dois voyager, bouger. Donc, ton lieu d'habitation n'est pas forcément ton lieu de travail.
Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des membres de ton équipe, des gens que tu n'as plus envie de revoir, ou qui juste un problème sur un. Je sais pas quel genre de problème, mais.
Non. Non, non, je crois que j'ai eu de la chance et j'ai été épargnée de ça. Non, non, j'ai jamais eu de personne avec qui j'ai eu des problèmes sur plateau. Bon, ça m'est arrivé une fois, mais c'était sur un clip où là, je me suis dit que je ne retravaillerais pas avec eux. Mais eux non plus, d'ailleurs, pas avec moi, je pense. Donc, c'était commun. Non, pour vraiment pour mes films à moi, vraiment les courts-métrages que je portais, non, non, jamais eu de ce genre de soucis.
Tu as quoi, du coup, comme projet à venir, là ?
Donc là, je suis en post-production de mon prochain film, qui sera, du coup, aussi un moyen-métrage. On est environ sur 45 minutes de film. Donc, qui est une comédie dramatique. Lena Nogaro. Donc, le montage sera fini le 30 juin. Et ensuite, mon long métrage, Les Sœurs Mgano, qui est en écriture et il faut que ça avance. J'ai des producteurs qui ont commencé à être intéressés et tout ça, donc j'ai vraiment envie de développer le projet, d'essayer d'aller au bout. Après, pendant ma formation à la Cité des Scénaristes, on a écrit une série à 5, là, toute la promo, qu'on doit aller pitcher à France Télé à l'automne, donc à voir si ça les intéresse et si on est optionné ou pas. Ensuite, j'ai aussi des projets que j'écris de mon côté. Donc, il y a le court métrage avec Frédéric là à Paris. On attend la réponse des subventions, quoi. S'il y a de l'argent, le film va se faire. S'il y en a pas, ce sera encore un projet enterré. Et j'ai un autre cours en écriture, une idée de série, une autre idée de long. Voilà. Après, il y a des idées d'écriture, des envies d'écriture qui vont aboutir ou pas. Et il y a aussi un film qui va se faire en Lozère. Donc avec mon frère Milo, qui est rappeur, on collabore beaucoup ensemble. Et là, on a monté un projet qui s'appelle Doline et qu'on va tourner à Merveille, donc dans les gorges de la Jonte et un peu sur le Causse. Où l'idée, c'est de faire une forme hybride entre le court-métrage de fiction et le clip de rap. Donc ça va faire, je pense, bien une quinzaine de minutes. Et c'est l'histoire d'un couple gay qui vit à Montpellier. Et il y en a un des deux qui est prof de maths. Et il a sa première mutation en Lozère. Mais sauf que lui, c'est un pur citadin. Il a peur des regards qu'on va pouvoir porter sur lui et sur son couple en ruralité. Parce qu'il ne connaît pas du tout. Il a plein d'a priori. Et donc voilà, ils vont débarquer à Merveille. Et ça va être un peu l'histoire de leur adaptation à leur environnement, quoi. Et pour ça, donc, on a obtenu une bourse du département de la Lozère pour faire rayonner la Lozère au-delà de son territoire. Et normalement, on doit leur rendre le projet décembre 2023. Donc voilà, ça va arriver vite.
On l'a entendu dans ce futur court-métrage, mais sinon, dans la vie de tous les jours, tu es extrêmement engagée dans le mouvement féministe ou des questions...
LGBTQIA+, écologique, décolonialisme, enfin voilà, un peu... où il faut déconstruire, quoi.
Et du coup, comment ça se caractérise dans ta vie de tous les jours, ça ?
Après, ma vie de tous les jours, c'est beaucoup mon travail, donc je pense que ça passe énormément par mon boulot. Mais après, en tant que personne, déjà, j'ai un cercle social qui est entouré de personnes qui, quand même, partagent beaucoup mes idées, mes opinions. Donc, j'ai pas beaucoup à me battre au quotidien, on va dire, contre des remarques... des discriminations, etc. Mais j'ai aussi un engagement quand même sur mes réseaux sociaux, voilà, où je partage et je m'exprime voilà, sur des actus qui me paraissent problématiques. Et donc ouais, ça, en fait, mon engagement militant passe beaucoup par mon travail. Bon, après, je vais en manif, je milite auprès des copaines. Enfin voilà, il y a plein de... Je fais d'autres choses hein, que le boulot, mais ouais, ça passe beaucoup quand même par l'artistique.
Et notamment, du coup, aussi, j'y repense, tu l'as évoqué tout à l'heure, avec le bar associatif...
Ouais, l'Ultraviolette, ouais. Bar associatif queer et féministe à Montpellier. Et qui me permet vraiment de, en fait, d'avoir vraiment cet engagement militant parce que toute l'équipe est super engagée et on partage les mêmes valeurs. Et en même temps, ça fait plein de belles discussions. Ça fait avancer ma conception du féminisme, des mouvements queer. Je me suis entourée du coup de plein de personnes très riches, de plein d'expériences militantes. Et c'est sûr que tu continues en fait à réfléchir, t'as tout le temps t'es tout le temps en train de questionner ce qu'il y a autour de toi. Et voilà, c'est une expérience de ouf.
Tu parlais aussi juste avant de la Lozère. Moi, j'ai les courts-métrages, t'as tourné actuellement en Lozère. J'ai Néo Alchimiste, j'ai un petit documentaire à l'école de Bédouès.
Ouais.
Je sais pas s'il y en a. Il y a quoi d'autre?
Donc il y a Néo Alchimie. On a fait un petit docu dans une école à Bédouès quand ma mère était malade et travaillait dans les écoles de Lozère. On a aussi fait Demain je veux vivre sur le Causse. Et il y a eu Je marche sur l'aube qui est donc à la fois sur la partie avéronaise et la partie lozérienne de l'Aubrac. Et je crois que c'est tout.
Et est-ce que la Lozère t'inspire? Est-ce qu'il y a un cadre qui t'inspire? Est-ce que...
Ouais, bien sûr. Non, c'est... pour moi, c'est des décors incroyables que je veux... J'avais vraiment un désir de les filmer très très fort. Sur l'Aubrac, je l'ai extrêmement senti. Jusqu'à présent, j'avais peu mis les décors naturels en avant dans mes films, en tout cas pas autant. Et là, le fait d'aller les filmer, de vraiment prendre le temps. En fait, j'ai pris un gros temps de repérage sur l'Aubrac qui était génial, où j'ai même fait un trek de 3 jours pour être dans la peau de mon personnage qui traverse l'Aubrac à pied. Et j'ai pu faire repérer plein de décors comme ça. Donc c'était hyper inspirant. Enfin vraiment du désir de filmer ces paysages, de voir mes personnages évoluer dedans. Et là, on est en mai, les couleurs elles sont magnifiques. Je traverse, pour venir à Florac de Merveilles, c'est absolument incroyable la route. Et même j'ai fait Montpellier-Merveilles par Gange et le Vigan. Enfin, ça donne envie de poser sa caméra, quoi, et de regarder les personnages traverser tout ça.
Et du coup, tu comptes t'inscrire beaucoup plus dans la fiction? Le côté documentaire t'intéresse pas plus que ça?
Non, je me sens pas du tout réelle de docu. Je suis vraiment une réelle de fiction. Moi, j'aime écrire des histoires, les inventer, voilà, les concevoir de toutes pièces. J'aime la réalité, mais pas au point de la filmer. Donc, je suis vraiment une réalisatrice de fiction.
On a été au lycée à l'Option Cinéma ensemble. Moi, j'en ai gardé des grands souvenirs et un grand amour du cinéma d'horreur. Comment ça se place pour toi, ce cinéma d'horreur?
Alors, moi, pas du tout. Non, moi, c'est pas du tout mon style. Genre, je regarde pas ça. En fait, je suis une grosse flippée, quoi. Je déteste angoisser en film. Pour te dire, j'ai regardé la série... Mince, j'ai perdu Adapté du jeu vidéo.
Last of Us.
Oui, Last of Us, merci. Oh là là, c'était dur. Donc ouais, j'ai regardé Last of Us et les premiers épisodes, mais c'était impossible pour moi à regarder. Tu t'attends ils ont tellement bien travaillé la mise en scène et l'écriture que tu t'attends à chaque instant qu'il y en ait un qui sorte de je sais pas où pour se jeter sur les personnages principaux. Et en plus, c'est une série qui est tellement bien écrite. Tu t'attaches tellement au personnage que vraiment tu t'as peur, enfin pour lui ou pour elle, et t'es à fond, quoi. Et là, mais moi j'ai trop du mal. Enfin, je suis allée au bout parce que la série c'est une pépite cinématographique, je trouve, mais j'avais peur. Et du coup, le cinéma d'horreur c'est pas pour moi. Sinon j'ai les mains devant les yeux. Mais c'est cool que t'aies gardé ça de l'Option, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup cette influence-là via Sandy Blanco.
Moi, j'ai toujours aimé l'horreur. Là, en plus, il y en a très peu qui sont produits en France, des films d'horreur. Le dernier que j'ai vu, c'était Grave.
Ouais.
Je sais plus de la
Julia Ducournau.
Oui, il était super bien et j'en ai pas revu depuis.
Ça, tu vois, moi j'ai vu Grave et pour le coup, ouais, c'est du cinéma d'horreur, mais en effet, pas comme on l'entend aux États-Unis.
C'est pas de l'épouvante.
Ouais.
C'est de l'horreur par d'autres côtés, mais c'est pas du cinéma d'épouvante, oui.
Et du coup, bah oui, elle a fait Titan, qui est aussi horrifique, mais d'une autre manière. Et il y a La Nuée aussi, qui est un peu dans cette vibe-là, là, qui est sortie il y a pas longtemps, enfin l'été dernier, je crois. Je sais pas si tu l'as vu.
Je passe malheureusement très peu de temps dans les cinémas.
Avec les sauterelles, non, ça c'est assez flippant.
Je note. Oui, est-ce que tu peux m'expliquer du coup qu'est-ce que c'est une résidence, comment ça se déroule pour toi et est-ce que tu comptes en refaire à l'avenir en Lozère ?
Alors une résidence, bon, il y en a de plusieurs types, mais moi j'ai fait des résidences d'écriture où là vraiment tu réponds à un appel à projet avec un projet de film que tu as toi, que tu portes depuis quelques mois, quelques années. Et si t'es prise, tu vas pendant une certaine période dans un lieu où t'es en général nourri, logé et accompagné, où on met à ton service un consultant ou une consultante voilà, qui t'aide à faire évoluer ton projet. Donc moi j'ai eu la chance de faire celle de Jindou qui est en Occitanie pour le long, et celle de Brive aussi pour le long, qui est sur les adaptations littéraires. Et après, il y a les résidences de territoire. Donc ça, c'est celle dont j'ai parlé sur l'Aubrac et dans le Gers. Et ça, c'est entre la commande et la carte blanche. Donc il y a un appel à projet avec une thématique, une contrainte de thématique et de territoire et de médiation. Et il faut de la médiation artistique et culturelle qui soit inclue dans le projet. Donc tu réponds avec un dossier. Et moi, par exemple, sur l'Aubrac, la thématique, c'était les imaginaires de l'eau, le territoire. C'était la partie aveyronnaise de l'Aubrac. Donc c'est souvent une communauté de communes qui porte ça. Moi, c'était Aubrac Carladès Viadène. Et sur place, tu as une coordinatrice de résidence ou un coordinateur. Moi, j'ai eu que des coordinatrices, donc voilà. Et c'était aussi porté par le parc régional de l'Aubrac. Et quand tu y vas sur une certaine période. Donc en Aubrac, moi, c'était 3-4 semaines cumulées. Dans le Gers, c'était 8 semaines cumulées. Donc les temps varient. Et tu dois créer une œuvre. En y mêlant donc en portant toi ton regard sur le territoire via la thématique donnée et en y mêlant le résultat des ateliers que t'as fait avec les habitants et habitantes du territoire. Voilà, c'est un peu l'idée. Et j'adore ce format-là parce que c'est vraiment à la croisée entre la transmission et la création. Et les contraintes en général pour moi sont ultra créatives. Donc j'adore ces formats et là en Lozère je sais pas si j'aurai l'occasion d'en refaire parce qu'il faut qu'il y ait des appels à projets, c'est pas toi qui décides d'aller voilà, en résidence de territoire sur une com-com, mais c'est sûr que s'il y a un nouvel appel à projet je pense que j'y candidaterai. Et après j'ai demandé là quand même la résidence, j'ai déposé un dossier pour la résidence de territoire des ateliers Médicis, donc qui s'adresse aux jeunes artistes qui viennent de sortir d'études quoi, ou d'école. Et en fait, tu choisis les départements où tu veux aller faire ton projet. Donc, tu mets trois choix. Et si jamais tu es sélectionné, c'est eux qui t'envoient. Donc, moi, j'ai mis la Lozère, l'Ariège et les Pyrénées orientales, je crois. Ou un autre. Bon, voilà.
Et du coup, niveau transmission, est-ce que tu as déjà fait ou tu vas faire des demandes dans des lycées, des écoles pour passer auprès des jeunes
Bah alors, ça, j'ai déjà fait. J'en ai déjà fait beaucoup d'ailleurs, ouais. En milieu scolaire. Et après, c'est pas trop moi qui fais des demandes, c'est plutôt les établissements ou alors les structures qui font l'intermédiaire entre les établissements et les artistes qui viennent te chercher. Donc ça peut être les agences de cinéma régionales comme Occitanie Film, ça peut être les pôles d'éducation aux images. Par exemple, moi j'ai travaillé avec Les Yeux Verts à Brive, donc en Corrèze, qui est venu me chercher pour un super atelier qui était financé par le CNC, qui finance des ateliers expérimentaux de cinéma auprès du jeune public, donc des classes de CM en primaire, quoi. Voilà, moi je ne fais plus de démarchage parce que j'en ai plus besoin, on vient assez me chercher pour pouvoir pour que je puisse en vivre, mais voilà, c'est plutôt des structures qui viennent me voir avec une demande.
J'ai fait un grand tour des questions que j'avais préparées de côté, là j'ai pas d'idées qui me viennent tout de suite. Est-ce que toi tu aurais un truc à partager comme ça?
Je crois pas. non, on a déjà fait bien le tour des questions de cinéma.
Ouais.
Ça me paraît bien.
Et bien dans ce cas, je te dis un grand merci, Louana, et au plaisir de te revoir.
Ben merci à toi de m'avoir invité à Radio Barthas.
Ici le QG central du réseau. Malgré plusieurs morts, nous avons réussi à repousser l'ennemi. La rébellion est toujours vivante. Je répète, la rébellion est toujours vivante. Je m'appelle Nour et je vous assure que nous aurons un avenir.